Culture sans frontières, Anna Kubishta.
Bonjour, Jacques Renoir est l'arrière-petit-fils du peintre impressionniste Pierre-Auguste Renoir et le neveu du cinéaste Jean Renoir. L'image et sa composition, c'est donc un héritage de famille. Jacques Renoir est avant tout un cinéaste qui a notamment collaboré au film du commandant Cousteau, mais la photographie a toujours été son dada. Aujourd'hui, il s'y consacre quasi exclusivement avec passion. La galerie Plaminec à Brno expose plusieurs de ses photos jusqu'à la fin octobre. Jacques Renoir est l'invité de cette émission.
Le joli moulin de la Galette a des ailes couleur du temps. Et les refrains de ses chansonnettes tournent, tournent au rythme du vent.
Je travaille par thème, et là en l'occurrence il y a trois thèmes qui sont les collisions et les empreintes, je vous préciserai ce que c'est, les ateliers d'artistes et les oliviers de Renoir.
Alors, si on distingue chaque cycle hein, ou chaque thème, comme vous dites, qu'est-ce que sont les collisions ?
Les collisions et les empreintes, c'est une démarche particulière qui me tient à cœur, c'est-à-dire d'aller chercher le beau, entre guillemets, là où on s'attend pas à le trouver. Je me suis beaucoup promené chez les ferrailleurs, les déchetteries, aussi bien en France qu'aux États-Unis, pour chercher les formes, les couleurs, les compositions, et qui représentaient une certaine esthétique auquel j'étais attaché. De la même manière, les empreintes, ce sont les empreintes d'affiches de métro, d'un métro particulièrement, qui est le métro Champs-Élysées-Clémenceau, en bas des Champs-Élysées, qui était en rénovation. Ce métro n'avait pas été restauré depuis 40 ans, et donc c'était accumulé des couches successives d'affiches qui, arrachées par les employés de la RATP, tout d'un coup délivraient, révélaient des formes aussi, des couleurs, à travers leurs lambeaux.
Vous avez parlé également d'un autre cycle, qui est le cycle de portraits d'artistes. J'allais dire que c'est le fameux atavisme familial d'aller photographier des artistes, faire des portraits dans leurs ateliers ou pas.
Oui, la notion d'atelier d'artiste est pour moi plus générale. C'est pas simplement un lieu où ce lieu peut être aussi bien à l'extérieur, ça peut être dans la rue, ça peut être les tags, ça peut être les graffitis. C'est la démarche de quelqu'un qui essaie de s'exprimer et de traduire d'une façon personnelle l'indicible. Mais en l'occurrence, là, les photos que je présente sont généralement dans des ateliers qu'on considère, qu'on appelle ateliers. Et ma démarche n'est pas celle de reportage, mais c'est celle du rapport qu'a l'artiste avec l'œuvre.
Il y avait un dernier cycle ?
Alors, le dernier cycle, ce sont les oliviers. Les oliviers, en l'occurrence, ce sont les oliviers du domaine de Renoir, où j'ai vécu enfant, qui était la dernière demeure d'Auguste Renoir, mon arrière-grand-père. Et ces oliviers ont été sauvés, en quelque sorte, par Auguste Renoir, car ces oliviers étaient menacés d'être arrachés pour installer des serres de fleurs. Et Renoir, qui peignait sur cette colline où se trouvaient ces oliviers millénaires, extraordinaires, étonnants, a racheté la propriété, a fait construire une maison et y a passé les 17 dernières années de sa vie et a sauvé les oliviers. Ces oliviers sont étonnants et très rares. Il y en a 149 dans cette propriété de 3 hectares. Et ce sont pour moi pas seulement des arbres, ce sont des sculptures vivantes qui évoluent lentement parce que au fil des ans, mais leur tronc torturé, les racines qui plongent dans la terre, cette écorce qui ressemble à des écailles d'animaux préhistoriques, pour moi, sont comme des sculptures. Et d'ailleurs, là, je les ai traités uniquement en noir et blanc, afin que la couleur ne perturbe pas ce que je vous tenais à souligner, c'est-à-dire ces sculptures.
Oui, parce qu'en fait, quand on regarde ces photographies d'Olivier, on voit ces espèces de troncs noueux, on dirait quasi une espèce d'enchevêtrement ou des muscles finalement qui se contractent si on avait un microscope ou si on allait beaucoup plus près de la peau pour voir comme une peau en fait finalement qui se contracte aussi.
C'est tout à fait ça, et c'était pour moi aussi une sorte de clin d'œil à Renoir qui, à la fin de sa vie, était paralysé, ses mains déformées par un arthrisme déformant, et donc ses mains étaient comme nouées, comme repliées, et rappelaient étrangement les racines de ces arbres.
Vous l'avez dit vous-même, donc vous êtes l'arrière-petit-fils d'Auguste Renoir, le peintre, le neveu de Jean Renoir, le cinéaste. Il y a un rapport à l'image, la lumière, à la composition. Il doit y avoir un œil familial, effectivement. Vous êtes tourné vers la photographie. Comment, quand et pourquoi?
Alors, à vrai dire, la photographie est une passion de jeunesse que j'ai retrouvée tardivement. Car mon métier est celui de cinéaste et de directeur de la photographie, ce qui n'a pas beaucoup de rapport avec la photographie proprement dit. Bien sûr, on emploie quelque part les mêmes bases, c'est-à-dire la capture de l'image, que ça soit argentique ou numérique, mais la démarche est quand même différente. Alors maintenant, j'ai envie de retrouver un peu une liberté, c'est-à-dire de ne plus avoir les contraintes qui sont celles d'une équipe lourde où il y a 100, 150 personnes et où on est soumis à des contraintes de temps et d'argent. Donc je renoue avec ma passion d'antan, quand j'ai commencé ce métier de cinéaste, où étudiant, je faisais beaucoup de photos, des pressbooks de comédiens, de comédiennes et des photos de théâtre. Au cours des films que j'ai pu faire à l'étranger, notamment avec Cousteau, j'ai fait des photos, mais on ne peut pas à la fois être à la fois responsable de l'image d'un film et puis être photographe. Donc maintenant, je me consacre pratiquement exclusivement à la photographie et j'y trouve beaucoup de bonheur.
Est-ce que vous vous situez dans un camp plutôt numérique, pas numérique ?
À mon avis, ça n'a aucune importance. L'important est le résultat. Vous savez, il y a encore des gens qui travaillent avec les sténopés et qui font des merveilles. On peut faire des photos extraordinaires avec des appareils de photos des années 1920-1930 avec un vieux Leica. Le problème n'est pas là. Le problème est effectivement le numérique apporte une souplesse d'utilisation qui, au niveau de la prise de vue, par une visualisation immédiate, permet de contrôler plus facilement. Peut-être on perd un peu de rigueur, parce qu'avant, quand on savait qu'on avait 12 photos dans l'appareil, eh bien, sur sa pellicule, on faisait attention de ne pas les rater. Mais maintenant, avec le numérique, effectivement, on mitraille, entre guillemets, et parfois on réfléchit pas, et on se dit, on verra bien dans tout ça, il y aura bien une photo de bonne. C'est comme ça, d'ailleurs, que des photographes amateurs, entre guillemets, c'est pas péjoratif, arrivent à faire des photos extraordinaires, parce que, effectivement, si vous faites 1500 photos, il y a une chance pour qu'il y en ait une ou deux de bonnes. Alors, je ne jette pas du tout la pierre aux photographes dits amateurs, que je respecte beaucoup, et au contraire, je me réjouis de voir qu'il y a une sorte de mondialisation et universalité de la photographie.
Et vous-même alors photographiez?
Moi, je travaille bien sûr maintenant en numérique, car il y a des appareils extrêmement sophistiqués qui donnent des résultats. Le gros problème qu'avait le numérique, c'était surtout quand on travaillait le noir et blanc. Le noir et blanc est beaucoup plus difficile à travailler que la couleur, parce que la couleur reste très subjective. D'ailleurs, si vous prenez, je cite un exemple, un tableau de Renoir qui est reproduit dans 10 catalogues, vous ouvrez les 10 catalogues, ça sera 10 tableaux différents en couleur. Pour en revenir au numérique, les appareils de photo maintenant offrent des gammes évoluées de gris, de noir et de blanc, et aussi de sensibilité très poussée. Étonnante, comme aussi de reproduction aussi des couleurs.
Pour terminer, j'aimerais juste un peu parler de ce livre, le tableau amoureux, paru chez Fayard, qui est également paru en tchèque. Il y a quelque temps, malheureusement, il est épuisé. Est-ce que vous pourriez présenter un petit peu cette biographie de votre arrière-grand-père ?
Oui, vous savez, il y a eu beaucoup de biographies écrites sur Renoir, de nombreux ouvrages et tout. Mon but n'est pas tellement le travail d'un historien, mais c'est de recréer un climat et une atmosphère des dernières années de la vie de Renoir dans cette propriété où enfant, j'ai vécu. J'ai pas connu mon arrière-grand-père, mais néanmoins, j'ai bien connu ses fils, Pierre, mon grand-père, Jean, mon grand-oncle, et mon autre grand-oncle, Claude, que l'on appelait Coco, qui était propriétaire, qui a hérité de cette maison. À travers les anecdotes, les histoires qu'on peut se raconter en famille, j'ai réuni ces anecdotes et j'ai tenu à écrire plus qu'un livre d'historien de l'art, un récit que j'ai voulu vivant comme un roman et qui relate donc la vie aux Colettes, c'était le nom de cette propriété, avec Renoir, sa femme, ses enfants, les modèles, les histoires de cœur, les histoires de les troubles, la guerre de 14-18. Enfin, tout ça est, je ne vais pas dire comme Borisian, tout ceci est vrai car je l'ai imaginé, mais je vais quand même dire comme Borisian, tout ceci est vrai car je l'ai imaginé, tout ceci est vrai et ce que je ne savais pas, je l'ai imaginé. Et ce que l'on ne sait pas. Car, effectivement, les petites histoires font la grande histoire, mais très souvent, les petites histoires sont brodées et la grande histoire est toujours un peu faussée par les petites histoires. Mais là, j'ai essayé de tisser les liens entre des événements, entre des personnages et imaginer ce qu'ils ont pu se dire là où il n'y avait évidemment pas de témoins et où je suis le seul témoin qui est privilégié.
Donc, liberté à la fois de l'écrivain, mais aussi, finalement, vérité historique par votre famille, par l'histoire de votre famille.
Oui, je pense être très fidèle à l'histoire. Et si j'ai le temps de vous raconter une petite anecdote, Renoir avait un chauffeur qui s'appelait Baptistin. Et ce chauffeur l'accompagnait à Paris ou dans ses déplacements. J'ai imaginé que quand Baptistin accompagnait mon arrière-grand-père et sa famille à Paris, Baptistin, eh bien lui, il allait retrouver une maîtresse. Et un jour, à la sortie du livre, le petit-fils de Baptistin m'a appelé et m'a dit « Monsieur Renoir, hein, vous le saviez, vous, hein ?» J'ai dit « Quoi ?»« Ben que mon grand-père, ah là là, personne dans la famille, tout le monde dans la famille le savait, mais on a caché ça, mais il avait une maîtresse, effectivement. Hein, vous le saviez, comment vous l'avez su ? Ah, j'ai dit ça, vous savez, c'est un secret. »
Merci beaucoup, Jacques Renoir.
C'est la candidature.